Bonjour à tous, bienvenue pour le 15e numéro d'En Spectateur. Oui, déjà 15 numéros. Et pour ce 15e numéro, j'ai décidé de me faire plaisir et comme cadeau de Noël avant l'heure, j'ai réussi à me débarrasser de mes chroniqueurs habituels. Oui, enfin, Irène, Antonio et Florent, non, je les embrasse, vacherie à part, et vous les retrouverez bien sûr et avec bonheur à la rentrée. Mais alors, l'équipe type d'En Spectateur n'étant pas là, qui va assurer les critiques, me direz-vous ? Bonne question, chers auditeurs. En plus, ça cadre pile avec le script, c'est bien. Merci de me la poser, donc. Surtout que cette semaine, nous revenons non pas sur un, mais sur deux spectacles, attention, que nous annoncions dans de précédentes émissions. Les Ombres de Peter Pan, d'abord, mis en scène par Juliette Père et Vladimir Lifschutz, et donné au Théâtre Cantor les 12, 13 et 14 décembre dernier. Chambre avec vue sur le fond des mers, ensuite, écrit par Estelle Baudou, d'après l'œuvre d'Ibsen et mis en scène par Claudia Charnay. Très belle pièce, qui se jouait au Théâtre des Marronniers du 11 au 16 décembre, et que j'espère vous n'avez pas manqué, parce que sinon, vous allez avoir de quoi regretter à entendre les critiques de mes petits chroniqueurs d'un soir dont vous ignorez encore l'identité. Ça, c'est l'art de ménager le suspense. Si je continue comme ça, je vais bientôt pouvoir remplacer Nico sur TF1 et ça, c'est du plan de carrière. Alors cette semaine, équipe de choc donc, au micro d'un spectateur, puisque je reçois rien moins que... Oui, Charlie et ses drôles de dames. D'abord, la magnifique Rousse Marie, étudiante en art du spectacle, qui avait déjà signé dans cette émission un papier passionné sur la pièce Bienvenue dans l'espèce humaine et surtout sur la situation du théâtre Paris-Villette. Bonjour Marie.
Bonjour à tous.
Ensuite, avec sa voix suave à faire pâlir toutes les Pascal Clark des ondes, ma complice, la blonde Marie-Ève, que j'accueille pour la première fois et avec plaisir dans Spectateur. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Thomas.
Elle était déjà venue faire la critique de Mystère Bouffe de Dario Fo, mis en scène par la branche bâtarde. Elle a pris goût à l'exercice et c'est tant mieux. J'accueille également l'envoûtante russophile Caroline, brune devant l'éternel. Bonjour Caro.
Bonjour.
Enfin, le plus vénard de tous, celui dont on n'entend que la voix de braise, mais qui n'est pas moins charmant que ces drôles de dames, Charlie, alias Will. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes au complet, Charlie et ses drôles de dames, le temps d'un jingle, et nous pouvons commencer. Et pour entamer cette émission, on ne part pas bien loin puisque nous allons vous parler des Ombres de Peter Pan, mis en scène par Juliette Père et Vladimir Lifschutz au Théâtre Cantor les 12, 13 et 14 décembre dernier. Alors tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan, ou du moins tout le monde croit la connaître, ayant vu le dessin animé Disney ou le film de Spielberg. Tout le monde aime le gentil Peter et conspue Crochet et sa méchante bande de pirates. Sauf que l'histoire de Peter Pan est bien plus complexe et profonde que la pâle caricature fixée dans les mémoires. Déjà, il faut rappeler qu'il s'agit à l'origine d'une pièce de théâtre écrite par James Matthew Barry au début du XXe siècle, et d'une pièce particulièrement liée à son créateur, puisqu'il a... fondé le personnage de Peter Pan pour les enfants de son amie Sylvia Llewellyn Davis et qu'il n'a ensuite pas cessé de retravailler Peter Pan. C'est donc une pièce qu'il a accompagnée tout au long de sa vie. Il l'a d'ailleurs transformée en roman et il a retravaillé sa pièce en ajoutant des scènes et de nombreuses didascalies. Mais surtout, on se fait de fausses idées sur l'histoire elle-même et sur ses personnages, puisque loin de l'image manichéenne traditionnellement répandue où Peter est un ange, non, c'est un sale gosse parfois cruel, un crochet en puissance, peut-être même en devenir. Tout cela, c'est ce qu'ont voulu rendre Vladimir Lifschutz et Juliette Père dans leur mise en scène. Ils ont voulu opérer une sorte de retour aux sources, rendre son âme à Peter Pan et nous faire pénétrer au pays imaginaire. Pour cela, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Grand écran, effets lumineux, cirque, danse, musiques originales, une distribution théâtrale énorme. C'était un spectacle total auquel vous étiez convié en théâtre Cantor. Alors je me tourne vers celle qui autour de la table connaît le mieux Peter Pan, qui me fusille d'ailleurs du regard depuis que nous avons commencé cette émission parce que je dis Peter Pan et non pas comme il faudrait Peter Pan. Elle a beaucoup lu autour de ce personnage qu'elle adore, même une adaptation érotique offerte en cadeau par ses amis, c'est dire. Alors je me tourne vers toi Marie, qu'as-tu pensé des Ombres de Peter Pan ?
Alors c'est un spectacle, comme tu disais, qui est très ambitieux techniquement et formellement, qui revendique une certaine intermédialité, mais dont le résultat est malheureusement assez classique, je trouve, pour une mise en scène qui est plutôt illustrative. Différents arts sont mêlés. Donc la musique, qui pour moi meuble simplement les longtemps de changements de décor derrière les rideaux.
Et huit changements de décor au total.
Effectivement,
c'est long à chaque fois. Ouais.
Qui a un rôle plutôt d'accompagnement, comme un rôle très cinématographique, ce qui n'est pas étonnant puisque Vladimir vient du cinéma, et qui aussi illustre les tintements de clochettes. Les projections vidéo, quant à elles, permettent de résoudre certaines questions techniques, notamment le fait de voler.
Ouais,
comment
bête,
on entre, sachant qu'il n'y a pas de cordes.
Il n'y a pas de grosse machinerie en canton.
Ouais, voilà. C'est une option intéressante de voir simplement les ombres. C'est que les ombres qui volent.
D'ailleurs, d'où le titre, ça colle bien.
Oui, mais surtout, les projections, elles ont un rôle de décor. Et on pense aux toiles peintes du 19e siècle. Et dans ce cas, c'est plutôt ringard, je trouve. Et en fait, il ne suffit pas d'avoir un vidéoprojecteur pour que ça soit quelque chose de moderne et d'audacieux. Ça illustre les lieux, simplement. Alors, il aurait peut-être fallu plutôt les suggérer, jouer sur l'imaginaire et la notion de jeu. On va jouer à ce que ça soit dans la lagune aux sirènes. Et enfin, si je puis me permettre un conseil, supprimer les danses qui font vraiment pièce rapportée dans la mise en scène et qui font terriblement amateur. C'est vraiment un des gros points négatifs. C'est dommage parce qu'il n'y en a que deux, mais ça choque terriblement.
Et finalement, cette pièce, c'est dommage, Marie, parce que tu dis au départ, il y a quand même une intention qui est magnifique et qui est louable et tu as été déçue.
Oui, alors il y a la question du temps qui est mise au centre, sauf qu'on a ça devient plutôt une épreuve du temps qui passe parce que le spectacle est très très long, alors que.
3 heures.
Presque quasiment 3 heures, effectivement. Alors qu'en mettant au centre les personnages de Peter et de Crochet, c'est un choix qui est tout à fait pertinent et un point de départ qui aurait été extrêmement prometteur, sauf que ça devait. Mais justement qu'une ébauche, c'est pas du tout exploité. C'est vraiment dommage. Enfin, donc il y a d'un côté le garçon qui ne grandit pas. Alors déjà, c'est quelque chose qui est problématique. Est-ce qu'il grandit pas parce qu'il est mort? Un enfant qui grandit pas, c'est un enfant qui est mort. Ça pose des questions. Et l'homme qui, de son côté, a peur de la mort, donc du temps, le temps qui passe. Et ce temps est symbolisé par le crocodile. Donc cette question du temps, c'est à la fois ce qui lie les deux personnages et les oppose parce qu'ils n'ont pas la même appréhension du temps. Et ce qui fait la relation compliquée et problématique qu'ils ont. Donc l'idée de ne pas figurer en fait justement le crocodile, pas même sous la forme d'une ombre, ce qui aurait été une option possible, met en valeur la dimension du temps, puisqu'on entend juste le tic-tac, donc le côté immatériel et symbolique. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être que ce tic-tac ne fait pas assez peur. Et donc, est un peu éludé. Le compte à rebours inéluctable, en fait, que ça représente, on s'en aperçoit pas. Crochet, il a pas assez peur, en fait, du crocodile. c'est un gros problème de la mise en scène qui est illustrative et qui dit quasiment rien sur l'œuvre, alors que si on choisit, à mon sens, de monter une pièce et qu'on a un discours à porter dessus. Et là, il n'y a pas de parti pris où celui qui est annoncé dans la première scène n'est pas du tout tenu. Alors la première scène, justement, elle est extrêmement saisissante et impressionnante. Elle esquisse une vision très intéressante en attribuant à Crochet une phrase de Peter, c'est « à mourir ». Ça doit être une grande aventure. C'est une phrase que dit Peter plus tard, donc. Pour ceux qui ne connaissent pas le texte de Barry, on l'identifie plutôt à posteriori. Donc il y a un lien profond et identitaire qui est établi entre les deux protagonistes et un cycle qui est établi aussi. Donc Peter qui devient Crochet, puis est tué par le garçon qui a pris sa place. L'image de l'ombre de Peter qui se transforme en celle de Crochet, c'est une image qui est très très belle. Mais elle donne sens au titre aussi et elle présente Peter comme un crochet en devenir, ce que tu disais tout à l'heure, et le capitaine comme un ancien Peter Pan.
Et finalement, on l'entend à t'écouter, il y avait des choses qui ont été esquissées entre la réflexion sur le temps, la réflexion sur le cycle et les cycles, la réflexion sur les relations entre Peter et Crochet, mais que le problème c'est qu'ils ont certainement manqué d'un choix clair et d'un parti pris. Est-ce que c'est ça aussi, Caroline, qui t'a marqué ?
Je pense d'ailleurs qu'on est assez d'accord tous les trois sur ce point-là. J'arrête pas de la répéter depuis hier, mais la phrase « J'ai grandi le jour où tu rentrais dans cette pièce » que dit Wendy à Peter,
à la toute fin.
Qui revient après des années et qui vient chercher sa fille, du coup.
Mm-hmm. Jane.
Ouais, bah c'est vachement intéressant. Et pourtant, elle est juste comme ça.
C'est une caractéristique de cette pièce. Cette phrase, elle a été écrite par Vladimir et Juliette, parce que Les Ombres de Peter Pan, c'est à la fois la pièce de Barry, avec des coupes assez minines, et surtout quelques rajouts. Et là encore, on n'a pas une volonté claire. Soit on fait une vraie adaptation, c'est-à-dire on prend le texte et on met un nouveau parti pris, soit alors on peut faire un travail de recréation et de relecture de Peter Pan, mais là on a l'impression qu'ils sont entre deux eaux, c'est-à-dire qu'à la fois ils font une adaptation mais ils réécrivent des choses, et ça fait partie de ce non-choix qui caractérise un peu l'aventure.
C'est dommage, parce qu'en plus, même sans avoir vu la pièce originelle, qui je pense est assez difficile à trouver, on peut identifier, en ayant lu le roman, plus ou moins les morceaux originaux qui ont été intégrés dans l'œuvre de Barry, et c'est les meilleurs, les phrases ou la tectonique de la vaisselle chez les enfants perdus. C'est ce qu'il y a de plus drôle et de plus intéressant. Donc, s'ils avaient fait effectivement ce choix original. Mais après, c'est quand même agréable à regarder. On rit, même si c'est pas un humour très subtil, pas aussi ironique que dans Barry. Et puis, bon, on a tous adoré Nana, je pense.
Oui. D'ailleurs, moi, c'est sur ça que je vais rebondir. Parce que, bon, alors moi, d'abord, je tiens à préciser pour tout le monde que je n'ai ni lu la pièce originale de Barry, ni le roman. J'ai juste vu donc le Disney, la réécriture même de Spielberg, Hook, et le film Neverland avec l'inoubliable Johnny Depp.
C'est déjà bien.
Et donc, oui, justement, c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que c'est vrai que c'est extrêmement drôle. Enfin, pas tout, mais il y a vraiment des scènes très drôles. Donc oui, justement Nana, qui, je pense, mon acteur fétiche de la scène, de la pièce. Après, c'est vrai qu'on a des petites différences là-dessus, mais j'ai aussi beaucoup apprécié certains acteurs, notamment celui qui joue Mr. Darling et Crochet. Je trouvais qu'il avait un vrai charisme.
Richard, hein, qui signe aussi la réalisation.
Voilà, j'ai trouvé qu'il avait un vrai charisme sur scène. Bon, aussi après d'autres qui m'ont un peu moins touché, mais notamment Smee ou Monsieur Mouche, Peter et les enfants perdus. Je pense que ça a été vraiment les acteurs qui ont vraiment peut-être un peu plus porté la pièce que les autres, je ne sais pas. Mais donc pour donner un avis peut-être un peu plus positif, on va dire, c'est vrai que moi, ce que j'ai vraiment vu dans le spectacle, c'est qu'il y avait vraiment un côté très féerique, notamment sur les jeux de couleurs, les jeux de lumière, qui participent justement de ce que tu disais, Thomas, du spectacle total, hein, qui a été donné. Même si après c'est vrai qu'il y a des défauts par rapport à mais
bon. C'est très beau à regarder.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est quand même s'il y a des longueurs, je suis vraiment d'accord. Ça, c'est vraiment, même si c'est une question technique pour le changement de décor, il y a vraiment des longueurs qui seraient éliminées. Mais c'est vrai que c'est un spectacle qui, en tout cas, par plusieurs moments, m'a été agréable, quoi.
On peut dire que c'est du grand spectacle, c'est du bon spectacle. Alors, Marie, t'as été déçue, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver quand même dans Peter Pan, selon toi ?
J'étais d'accord avec ce que disait Caroline en disant que les passages réécrits sont intéressants mais ça représente à peine 10 minutes de la pièce, en fait. La première scène, la scène où Crochet imagine son combat avec Peter, et la scène où il parle avec Wendy en décrivant Peter comme quelqu'un d'égoïste et de cruel, et lorsque Wendy lui répond « mais c'est vous que vous décrivez là, enfin, c'est vous qui êtes comme ça, pas lui », c'est intéressant, et ça montre que justement il y a un amalgame entre les deux, et qui sont très très proches l'un de l'autre, mais c'est un film dans la pièce à... Ça représente à peine 10 minutes, alors que ça dure presque 3 heures. Donc c'est dommage que ça n'ait pas été plus creusé. Garder le texte de Barry en faisant des coupes plus importantes, certainement, ça aurait été plus intéressant. Mais pousser ce travail de réécriture ou le montrer dans la mise en scène comme l'ombre qui se transforme. Sinon, la mise en scène, elle porte pas de sens. Elle illustre les actions sans ajouter un discours. Ce qui est
En gros, il y a de bonnes idées, et quand il y a eu de l'audace, ça a marché, le travail de réécriture, il est là et il a fonctionné.
Oui.
Tu regrettes, tu n'en es pas plus. Et je crois que tu as été aussi sensible, tu le disais tout à l'heure, au côté cinématographique de ce qu'on a vu en théâtre Cantor pendant 3 heures.
Il y a un travail sur la lumière et sur les ombres. Il y a un très beau passage lorsque il y a le combat des Indiens et des pirates qu'on voit en ombre chinoise, et lorsque les enfants perdus se font capturer un à un. Mais c'est pas cinématographique, c'est un travail de lumière et d'ombre chinoise, c'est ce qu'on voit dans le théâtre d'ombre. Le côté projection vidéo, je le trouvais par contre pas très intéressant.
Moi, justement, sur le côté cinématographique, je vais repérer un petit truc. Donc, il me semble que Vladimir Lifshutz vient du cinéma, c'est ça ?
Enfin, oui, c'est ça.
Et j'ai trouvé justement qu'en fait, c'était justement, peut-être c'est un peu le défaut, c'est que c'était trop cinématographique.
Preuve d'ailleurs. Opine du chef.
Et en fait, je trouve que c'était une version qui était faite un petit peu pour être filmée, parce que justement, moi, ce que j'aime beaucoup au théâtre, c'est quand il y a un rapport avec les spectateurs, justement, ce qui, à mon avis, voilà, l'avantage du théâtre aujourd'hui par rapport au cinéma, c'est qu'on peut avoir un rapport avec les spectateurs. Kylian était absolument, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas présent. On nous montrait quelque chose de très joli. Mais voilà, sans forcément, voilà, aller dans le public et amener des spectateurs sur scène. Là, on jouait devant des caméras et pas devant des spectateurs, pour des spectateurs.
C'était trop cinématographique pour toi, Caroline ? L'influence, on est d'accord, c'était une pièce de théâtre avant tout, et je suis d'accord avec toi, les jeux de lumière primaient sur l'utilisation de l'écran. Mais quand même...
C'est pas parce qu'il y a un écran que c'est cinématographique.
Non, moi, la première scène
a quelque chose de cinématographique, mais pour moi, ça, le reste, non.
Je pense que ce que Thomas veut dire cinématographique, c'est pas tellement dans l'utilisation des moyens, donc le projecteur. Dans l'impression générale, c'est vraiment la musique,
Merci,
la façon dont ils font les scènes.
Tu
la musique,
moi, comme dans
on
un
dirait
livre
un gros blockbuster. Donc, ce que j'aime beaucoup, ce qui peut être très agréable à regarder. Mais donc, est-ce qu'il s'est trompé de genre ?
Finalement, est-ce que vous conseilleriez cette mise en scène à nos auditeurs, même si...
Je pense qu'on conseillerait quand même, si on veut voir une mise en scène qui est visuellement très agréable et... rire beaucoup, mais peut-être pas si on a envie d'avoir vraiment une vue en profondeur, une vue nouvelle sur Peter Pan. Ça dépend vraiment des attentes avec lesquelles on va voir cette pièce.
Mais un bon divertissement.
Tout à fait.
Oui, et puis c'est vrai que ça permet aussi de découvrir le texte de Barry, même s'il y a eu des
petites écritures, etc. On est biaisés toutes les deux, puisqu'on...
Donc c'est pas un reproche, mais c'est vrai que ça permet de découvrir le texte et... C'est vrai qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus court, parce que voilà, mais non,
oui,
c'est
plus court, oui, puisque il soulignait dans l'interview précédente que la pièce s'adresse aux enfants, tout le monde le sait, enfin que l'histoire s'adresse aux enfants, mais aux adultes aussi. Et là, simplement, la longueur, c'est un frein pour les enfants. Ça pourrait être accessible aux enfants.
Pour les adultes aussi.
Pour les adultes, oui, bien sûr. Mais pour les enfants, un spectacle jeune public, ça ne fait pas 3 heures. C'est juste rédhibitoire. C'est un bon divertissement, c'est sûr. On passe un bon moment. Mais la mise en scène n'est pas du tout à la hauteur de l'ambition qu'elle se donnait.
Pour nous, à notre avis.
Non, par rapport au discours qu'ils avaient sur leur œuvre, les intentions dont ils nous faisaient part la semaine dernière, c'est pas du tout à la hauteur.
Et est-ce que vous avez été... Alors, moi, je peux témoigner pour Marie, puisque je suis allé, donc on est allé tous ensemble voir la pièce, on est très comme ça, famille en spectateur. Et j'étais à côté de Marie, que j'ai vu redevenir une petite fille, en tout cas au tout départ, quand elle a vu les ombres de Peter Pan. Est-ce que vous avez été sensible à ça ? On parlait de féerie tout à l'heure, on parlait de retour en enfance, est-ce que ça marche là-dessus ?
La première scène qu'ils rajoutent est très intéressante, et la scène de la chambre d'enfant, elle est assez jubilatoire. Et effectivement, ça, le rideau s'ouvre, on est émerveillé. Après, quand il s'ouvre pour la 8e fois, c'est plutôt, on est plutôt lassé. Mais la première fois, oui. Et puis la première scène, la scène de la chambre, elle est très dynamique, elle est drôle. Et le moment où ils vont s'échapper par la fenêtre pour partir à l'aventure, c'est merveilleux.
Paris réussi pour l'émerveillement ?
Pour le merveillement, oui, tout à fait.
Caroline ?
Je crois qu'on est comme Wendy à la fin. On a envie de critiquer ce Peter trop léger, trop incompréhensible. Mais on a quand même vachement envie de partir avec lui.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Très, très belle image. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les critiques que vous venez d'entendre, chers auditeurs, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page de l'émission. Direction la Presqu'île, maintenant la rue des Marronniers, le théâtre du même nom. Nous étions déjà allés voir la magnifique pièce Trace de Grégoire Blanchon. Nous y sommes retournés pour une pièce de même qualité. Chambre avec vue sur le fond des mers, spectacle écrit par Estelle Baudou et mis en scène par Claudine Charnay, dont il faut, je pense, souligner le travail à ces deux jeunes filles très talentueuses. Ce qui se joue dans Chambre avec vue sur le fond des mers, c'est la vie intérieure du dramaturge Henrik Ibsen. Une vie peuplée de femmes, ses proches et ses héroïnes emmêlées pour le temps de la représentation. Les chambres sont ces lieux, passages, qu'investissent successivement les acteurs virevoltants d'un texte à l'autre. Ce sont les décors qu'ont créés les metteurs en scène pour l'œuvre d'Ibsen et qui sont présents sur scène sous forme de maquettes réalisées par Léa Millot qui s'allument et s'éteignent pour nous faire passer d'une pièce à l'autre, d'une atmosphère à une autre. Le fond des mers, lui, par nature, reste un mystère. Un homme et quatre femmes incarnent quelques-uns des grands textes du dramaturge pour ce spectacle, lâchant de temps à autre quelques bribes sur la vie d'Henrik Ibsen. Cinq magnifiques acteurs, je crois qu'on peut le dire, surtout Fanny Block, parfaite Hedwig dans Le Canard Sauvage et magistrale Hedda Gabler, et Amélie N., que j'ai reconnue avec plaisir sur la scène du Théâtre des Marronniers, toujours aussi magnifique, elle qui éblouissait dans La fille qui flambe, pièce inoubliable, mise en scène l'année dernière en novembre en Théâtre Cantor par Joséphine Chaffin, une pièce bouleversante à bien des égards, aussi proche de la perfection que cela est possible. Alors on peut dire qu'Amélie N. sait choisir ses projets, en assumant ici le rôle d'Ella, jeune fille fantasque puis femme blessée. Elle s'est vraiment pas trompée et elle fournit une prestation d'une force étonnante. Alors j'oublie évidemment pas Élodie Musel, Élise Clara Cordé et Maxime Roger qui complètent avec magnificence cette distribution. J'ai pour ma part beaucoup aimé, vous l'avez compris, Chambre avec vue sur le fond des mers, mais je ne suis que l'animateur ici. Place aux critiques maintenant et je me tourne vers toi, Caroline. As-tu autant apprécié que moi cette pièce ?
J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. Oui, je commence en citant Baudelaire, et c'est presque pas un hors-sujet, puisqu'un de ses poèmes est déclamé par Henrik Ibsen dans Chambre avec vue sur le fond des mers.
Oui, il y a une passante.
En fait, il serait pertinent de parler de la relation de cette œuvre originale avec les pièces d'Ibsen dont elle intègre des extraits et la biographie du dramaturge. Mais petit 1, j'y connais rien. Petit 2, la présentation disait qu'on pouvait apprécier et comprendre la pièce sans connaître l'œuvre et l'homme.
Et je confirme.
Voilà. Et petit 3, j'avais aussi la flamme de regarder sur Wikipédia.
Ah bah bravo.
Bon, du coup, je vous parle de l'espace.
C'est pas mal.
Cette pièce, c'est un peu des poupées russes inversées. Plus on avance, et plus c'est grand. C'est le sac sans fond de Mary Poppins sous l'armoire de Narnia. Oui, parce que je tenais à trouver des métaphores qui n'étaient pas déjà énoncées dans la plaquette. Donc, on a une heure et des poussières comme cadre, un mouchoir de poche pour espace. C'est vraiment très petit, le Théâtre des Marronniers.
C'est vrai.
Et là-dedans, une profondeur et une densité incroyables, sur un rythme pourtant jamais précipité. Dès le départ, avec les maquettes qui ont été présentées comme le fil rouge du spectacle, on s'attend à un jeu avec l'espace et la perspective. Et pourtant, j'ai été surprise. Après avoir entendu l'interview d'un spectateur, j'imaginais, avec mon sens de l'orientation toujours infaillible, que la fameuse porte qui reste fermée se situait face au spectateur, pour donner l'impression de profondeur, un peu comme dans une peinture. En fait, elle se trouve sur le côté. C'est par elle que John Gabriel Borkman quitte la scène et la vie. C'est aussi par elle que se fait la sortie de la salle. En tant que spectateur, on entre côté cour, mais on ressort côté jardin. En fait, vu l'espace disponible, on entre côté bac à sable, on ressort côté bac à fleurs. C'est comme si on faisait que traverser la vie des personnages, nous autres qui sommes enfermés dans l'axe d'une dimension unique, alors que leur univers s'épanouit dans les trois dimensions, en plus de toutes les autres qu'inventent les mathématiciens. Comme le soulignent avec humour les comédiens à la fin, lorsqu'ils se placent derrière l'établi, puis derrière la planche en bois entre les rappels, la scène n'a pas de profondeur physique. C'est tout petit. Et pourtant, si. Le tabouret placé en avant côté cour délimite ce qu'on peut appeler l'espace biographique des confessions de Susanna ou Henrik. Le coin côté jardin est le domaine d'Edwige Hedda, laquelle se cache si parfaitement derrière son coffre que sa voix fait sursauter dans la première scène. Du coup, je me suis aussi fait avoir par la planche en bois côté cour. Je pensais que Gunhild se cachait vraiment dans l'angle. Et ce n'est qu'en voyant les cinq acteurs disparaître derrière à la fin que je me dis qu'il y avait peut-être une porte.
Ouais, c'est pas possible. Hein.
Voilà. Entre les deux, il y a l'établi, un espace qui semble malléable à souhait par le jeu. C'est comme si on voyait vraiment les personnages gravir des collines ou observer un pont. C'est assez incroyable. Et puis, il y a la verticalité créée par les escaliers dans les maquettes, les références au grenier où campent de beaux livres illustrés et un John Gabriel Borkman faisant les 100 pas. Mais aussi par des références mystérieuses à des concepts ou des êtres qu'on ne doit pas nommer. Un canard sauvage, un cheval blanc, le pronom « lui » appliqué à Borkman ou au mari d'Eda, que l'on écrirait avec une majuscule. Je crois que c'est cette échappée verticale du sens qui permet à la pièce d'être aussi profondément touchante. Le jeu des acteurs est excellent, le rire, la poésie et le tragique sont savamment dosés, l'espace scénique et les accessoires défient les lois de la physique, les raisons logiques ne manquent pas pour apprécier la pièce et la trouver extrêmement riche. Pourtant, dans la scène finale, après la mort de Borkman, Susanna va lentement ranger toutes les maquettes dans leurs étuis originaux, en laissant leur petite lueur briller par les interstices, puis éteint la lumière. Et moi j'avais envie de pleurer, et aucune idée pourquoi, il n'y avait même pas de violon. Ça ressemblait un peu à ce sentiment qu'on a en refermant un roman ou un livre de contes. On refuse de toutes ses forces que le rêve prenne fin, et pourtant, comme le dit Ella, cela vaut mieux ainsi. Comme si les personnages ne pouvaient exister en toute leur épaisseur qu'une fois qu'on les enferme dans un espace matériellement restreint, mais virtuellement infini, le livre. Et je conclurai, de façon tout aussi contradictoire, que le spectacle mérite par sa qualité une salle et un public bien plus grand, mais qu'il devrait aussi rester éternellement dans cette parfaite petite boîte à chaussures au Théâtre des Marronniers.
Merci beaucoup Caroline. Et je me tourne vers toi Will, parce que je crois que tu as un peu moins apprécié le spectacle.
Oui, alors pour être exact, j'ai beaucoup apprécié le spectacle, c'est vrai. Mais c'est, quand après je me suis mis devant ma page blanche et que je me suis dit « écris une chronique pour ce spectacle », j'étais un petit peu embêté. Parce que oui, je suis d'accord qu'on passe un très bon moment dans le Théâtre des Marronniers, qui a d'ailleurs de très bonnes pièces, comme tu as dit, il y avait Trace qui était magnifique. Il y a des acteurs formidables qui ont une vraie joie d'être sur la scène. Cependant, je pense que c'est vrai que c'est une pièce qui m'a donné beaucoup envie de découvrir Ibsen, et que je pense que ça tient aussi au petit côté Manuel Lefrançais qu'avait la pièce. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que on avait à certaines parties, voilà, la biographie d'Ibsen, donc on racontait un petit peu sa vie, et juste après, comme on mettrait dans un Manuel Lefrançais après un larmoyant paragraphe sur la vie difficile de Jules Laforgue, deux sonnets des complaintes et quelques vers du Concile féerique, là on avait l'illustration de quelques scènes. Alors je suis d'accord, c'était très bien joué, notamment celle tirée de la pièce éponyme John Gabriel Borkman. C'était vraiment la longue scène était très bien adaptée, très belle. Mais du coup, je pense qu'il manquait un petit peu de cohérence quand même dans le choix des scènes. C'est un bon choix. Puis c'est vrai qu'on voyait toute la palette d'Ibsen, entre le comique, le tragique, le satirique, etc. Mais pour moi, il manquait d'un petit peu de lien.
Ça faisait trop anthologie pour toi.
Voilà, ça faisait un petit peu anthologie de d'Ibsen, même si il y avait des très bonnes sorties que j'ai beaucoup appréciées, notamment il y a deux phrases qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est l'artisanat du Moyen-Âge, l'artisanat du Moyen-Âge, il n'y a rien de plus barbant.
Ah, quand on même... va faire son malin. Eh ben, je vais pas le couper, celle-là.
Non, mais faut quand même avouer que ça mériterait de devenir proverbial, je pense. Et ensuite, il y en a une autre qui porte à réfléchir et qui aussi est très drôle. C'est le poète est comme un homme qui prend un bain. Alors là, moi, je peux te dire que quand je m'imagine Victor Hugo avec un canard en plastique en train de rédiger la Légende des siècles, je me marre. C'est incroyable. Donc voilà, non, c'est une bonne pièce qui donne envie d'en voir plus. Et je dirais Franco de Port. Je recommande vivement d'aller voir cette pièce au Théâtre des Marronniers.
Merci Will. Et je me tourne vers la dernière chroniqueuse qui est allée voir cette pièce, ma complice Marie-Ève. Qu'en as-tu pensé ? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Caroline ou tu as certaines réserves comme Will, même s'il a beaucoup apprécié aussi ?
Alors je vais tenter de faire la synthèse des deux si c'est possible. Et je commencerai moi aussi avec une petite citation, mais cette fois-ci de la pièce. « Vois et transmets ce que tu as vu, vois et transmets ce que tu as vécu ». C'était là l'ambition littéraire d'Henrik Ibsen, mentionnée lors du moment de la pièce qui nous plonge dans la réflexion sur le travail de l'écrivain. Et je vais tenter très modestement, comme mes deux acolytes ici, et pour ma première chronique culturelle, au micro de Thomas, de faire cette citation mienne. Et je vais tout simplement vous partager mes impressions, car je ne suis pas grande théoricienne, mais j'ai juste envie de vous raconter comment j'ai vécu
bien,
ce spectacle.
Ça tombe bien, c'est en spectateur, pas en critique. Ça marche
c'est
bien.
Parfait. Et donc ce spectacle, en étant axé autour du rapport d'Ibsen avec les femmes, comme tu l'as souligné Thomas, qu'elles soient réelles ou fictives, présentes dans sa vie ou héroïnes de ses œuvres, m'a particulièrement touchée dans mon essence même de jeune fille sensible, un peu romantique sur les bords, et de femme en devenir. Et je vais donc vous partager ces quelques émotions. Ce qui m'a touchée d'abord, c'était la simplicité. À la fois du cadre, je ne vais pas y revenir longuement, tu as déjà bien développé ce que je voulais dire Caroline, des personnages eux-mêmes et des acteurs aussi. Et Thomas, tu m'avais prévenu justement en me houspillant un peu à l'entrée, parce que j'étais légèrement en retard, que la salle était petite, ou presque, j'arrive toujours pile à l'heure.
Xavier en régie, au pied du chef.
La vie de Xavier ne compte pas.
Oh bah. Je pense qu'il peut te couper le micro par représailles.
Mais il y a des Kinder dans mon sac. Donc, Thomas, tu m'avais prévenu que la salle était vraiment très petite. Et effectivement, elle l'était. Et je ne citerai pas Caroline, je te laisserai nous dévoiler la saveur de la remarque que tu m'as faite en sortant. Je ne sais pas si tu t'en souviens. D'accord. Qu'encore un peu plus petit, ça aurait été quasiment des toilettes. Non, c'était pas ça. J'ai pas dit
J'ai pas dit ça. Je me souviens pas, j'ai pas souvenir. C'est sûr que c'est pas un des deux autres.
J'étais de mal compris, disait, j'étais un peu.
Ah non, bah, je suis sûre que c'est elle qui l'a dit, alors
non.
Là, je mets ma main au feu.
Voilà, mais sans aller. Enfin, c'est les toilettes dans le sens positif.
On parle très peu du sens positif des toilettes, Marie-Ève, c'est vrai. Tu veux nous parler des anguilles dans les toilettes aussi?
Je voulais faire une chronique sérieuse, moi, tu
vois. C'est le drame de ta vie.
Donc, pour ne pas plagier Caroline, donc, la salle était vraiment très petite, à tel point que je me suis retrouvée dans un coin près de la porte, cette fois-ci la porte par laquelle nous sommes rentrés, par le bac à sable, alors que mes acolytes, eux, étaient au troisième rang, c'est-à-dire quasiment au fond du théâtre.
C'est oui, dire. C'est ça.
La simplicité donc, et je parlerai même de rusticité du cadre. Le cadre, donc aussi celui que l'on retrouve sur la scène, avec cette impression, je me suis retrouvée un peu dans le musée alsacien de Strasbourg que je connais bien, devant la vitrine menuiserie, où il y avait aussi les copeaux, et puis les tablis, et les tréteaux. Et justement aussi la rusticité de ces tréteaux, non pas ceux sur lesquels sont montés les acteurs, mais ceux qui trônaient au milieu du décor en bloquant presque le passage de ces acteurs. La simplicité aussi qui m'a touchée, c'est celle donc des personnages incarnés par ces mêmes acteurs. J'avais bien peur au début de la pièce, en n'ayant plus fréquenté Ibsen depuis très longtemps, de ne pas m'y retrouver. Pensez-vous à une intrigue qui mélange 5 pièces différentes, et qui plus est que je ne connaissais pas. Et cette histoire de canard sauvage au début, je me suis dit, c'est louche, dans quoi est-ce que je m'embarque? Mais très vite, tout s'est déroulé de façon limpide. Les figures féminines se sont vraiment succédées sans se ressembler, chacune étant vraiment typée pour incarner une sorte de facette de la femme avec un grand F. Je citerai par exemple Hedwig, Edda, enfant-femme, fragile et forte à la fois, ou encore Gunhilde, la fiancée et épouse à la fois désirée et repoussée, ou alors Ella, la femme volontaire qui vient déranger la vie de sa rivale et pourtant proche, à la fois dans la jeunesse et dans l'âge adulte, et puis Susanna, enfin cette femme discrète mais pilier et solide et indispensable, pilier donc autour duquel tourne toute la vie d'Ibsen et même toute la pièce.
C'est sa femme.
Oui, c'est ça. Et parfois justement, ce que j'ai un tout petit peu regretté là, c'est ce manque parfois de différenciation entre les femmes réelles et les femmes héroïnes de la pièce. Mais qu'importe, parce que finalement, on se prend au jeu, c'est le cas de le dire. Au jeu des acteurs aussi, et surtout des actrices, qui est lui aussi tout empreint de simplicité. Comme cette voix bien rauque de Ella qui m'a fait frémir à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Et le jeu aussi facétieux de Hedwig et Edda, pour ne citer que les deux plus marquantes. Ensuite, ce qui m'a touchée en deuxième, et ce sera moins long, c'est les effets de surprise que j'ai ressentis en spectatrice jeune fille naïve et ingénue, à la fois dans le jeu et dans les acteurs. Et là encore, Hedwig Edda était peut-être la plus surprenante de toutes. Et c'est là aussi un point important, donc ces surprises qui jalonnent la pièce et qui la rythment, qui lui donnent finalement son souffle. Moi, à chaque fois, éveillée quand je m'endormais dans une rêverie et me faisait revenir avec un peu d'ironie, finalement, à ce premier rang de théâtre. Et ces femmes, effectivement, cachées, qui surgissent tout à coup, ou bien encore ce coup de talon sur le coffre. Et comme j'étais au premier rang, moi, je l'ai pris vraiment comme un coup de talon. Et c'est après, effectivement, en réfléchissant un peu, je me dis, oui, mais c'est le pistolet dont la femme se sert pour tirer. Là, je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs de se mettre au premier rang pour mieux déguster ces petits effets scéniques qui sont très intéressants à observer. Ces petits trucs et astuces qui font aussi partie des surprises. Et la surprise, enfin, elle se trouvait aussi dans tous ces enchaînements de pièces les unes après les autres dans lesquelles on était finalement emporté sans plus se demander mais de quelle pièce il s'agit ou quoi que ce soit. Et qui aussi, ces surprises qui venaient aussi au détour d'une voix, VOIX ou VOIE, comme ce fameux poème de Baudelaire à une passante qui éclairait encore l'ensemble de la pièce d'un autre jour. Et ces surprises pourtant s'enchaînaient dans une forme d'harmonie que j'ai trouvée. J'ai pas trouvé comme toi, Will, que ça pouvait être plutôt haché ou faire un.
Juxtaposé.
Voilà, moi j'ai vraiment senti un effet d'ensemble harmonieux. Et enfin, et là je vais être encore plus personnelle, la troisième chose qui m'a beaucoup touchée, c'était les effets d'écho que j'ai ressentis par rapport à Ibsen et par rapport aussi à ce qui peut me toucher dans ma propre vie. J'avais vu avant de voir cette pièce, il y a fort longtemps, deux pièces d'Ibsen, Brandt. Brandt, où Ibsen disait « c'est moi-même dans mes meilleurs moments ». Alors c'était plutôt une pièce très déprimante, donc j'ai trouvé que Ibsen ne devait pas être un personnage très rigolo. Et j'avais vu aussi La Maison de Poupée, pièce beaucoup plus connue, dans une mise en scène très vive avec la compagnie Maboumine qui avait utilisé, dont les acteurs principaux étaient des nains pour vraiment montrer la différence entre les hommes de petite taille et la femme qui n'arrivait pas à trouver sa place là-dedans. Et finalement, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais connue dans ces deux pièces à la fois, en synthèse, dans la pièce proposée Chambre avec vue sur fond des mers. J'ai retrouvé un peu... pour faire court aussi toutes ces thématiques de l'évolution des femmes et de la place qu'elles essayent de trouver aussi à la fois par rapport aux hommes et entre elles, et aussi à la fois ce mélange un peu, pour résumer, entre deux caractéristiques d'Ibsen, l'alcoolisme et le mysticisme. Je vous laisse méditer là-dessus. Et pour terminer enfin, tous ces effets d'écho m'ont fait penser aussi à cette comparaison utilisée dans les vieux romans médiévaux. Là, ce sera un clin d'œil positif.
Merci.
Dans le roman de La Rose et autres. Cette pièce montrait à la fois l'amour, avec un grand A, avec toutes ces amantes qui cherchent, et l'amant qui cherche aussi ses amantes, mais aussi l'amour, la mère, comme disaient les anciens, la mère, l'amertume de ces femmes qui sont confrontées finalement à la réalité et où rien ne va comme elles veulent. La mère aussi, pour la mère, M-E accent grave R-E, qui est la suite de l'évolution des femmes dans cette pièce et qui là aussi pose problème. Et enfin, après l'amour, la mère et les mères, la mort. Et tout cela encore dans ce grand mystère des mères, la mère, cette fois-ci M-E-R, et les mères dans lesquelles nous plonge profondément cette pièce.
Je pense que c'est très important ce que tu as dit, Marie-Ève, à un moment, que justement ça t'avait marqué par rapport à des thèmes qui toi t'étaient chers, parce que je pense que c'est ça une grande force aussi de cette pièce, c'est qu'elle est très, très forte, très ouverte, ce qui fait que je pense que chacun peut trouver un truc qui le marque dans la pièce.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci à vous trois. Après Trace, encore un très beau spectacle au Théâtre des Marronniers, avec Chambre avec vue sur le fond des mers, donc. Si vous avez envie de sortir un soir, vous êtes prévenu maintenant. Si vous avez envie d'une sortie de théâtre, regardez la programmation du Théâtre des Marronniers. Elle est de très bonne qualité. La pression est du côté du Théâtre des Marronniers. Attention à la prochaine pièce que nous allons voir. Espérons que l'adage se vérifie. Jamais 203. Alors notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à mes quatre chroniqueurs exceptionnels, Marie, Caro, Marie-Ève et Will. Pour de nombreuses raisons, cette émission, c'est mon cadeau de Noël en avance. Merci à Xavier, Antoine et Fabien, la technique. Sans eux, vous ne pourriez pas entendre nos émissions, alors merci à eux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, des fêtes en musique, puisque pendant les vacances, nous vous rediffuserons le concert du Club de Musique de Chambre qui avait lieu le 13 décembre dernier, avec au programme Debussy, Ketelbé, Chopin et Shostakovich. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles émissions culturelles. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.